Et bonjour, Annick Delefoss au micro de Radio FM+, pour votre émission Scénorama spécial Printemps des comédiens, où comme chaque année, nous nous installons au Domaine d'Eau, tous les jeudis de 18h à 18h50. Venez nous voir, le studio est installé au niveau de la librairie, sous la Pinède. Merci à Jean Varela et à toute son équipe, ainsi qu'à Laurent, et à la super team d'FN+, de nous accueillir. L'émission sera écoutable comme d'habitude sur le 91 FM les vendredis à 11h avec rediffusion à 20h ainsi que le samedi à 12h10 et écoutable en podcast sur radiofmplus.org. Aujourd'hui j'accueille Brigitte Negro et Fafa Serre pour la création annuelle de l'autre théâtre, Tout le monde se ressemble, à voir du 13 au 15 à la Bulle Bleue. En seconde partie, Jérôme Marin, alias Monsieur K, pour Le Secret, cabaret au bon goût d'autre chose. C'est ce vendredi 7 et samedi 8 à l'Amphido. Et nous terminerons avec une interview de Katia Ferreira pour sa création avec les élèves de sortie de l'ENSAD. Tristesse animale noire, c'est au Hangar Théâtre, ce samedi 8, jeudi 13 et samedi 15. Brigitte Negro, chorégraphe, metteuse en scène, compagnie satellite, Fafa Serre, présidente de l'autre théâtre. Bonjour.
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 Alors, vous voici réunis pour la troisième année sur la conception du rendez-vous annuel, très attendu par le public. C'est aussi un soutien de très longue date de la part du Printemps des comédiens. Fafa, est-ce que vous voulez nous faire assez brièvement une présentation de cette association indispensable, née il y a 26 ans, c'est bien ça.
96. Hein. Mmh. Ils ont commencé à jouer, je pense, au Printemps des comédiens en 97. Mmh. De nombreux metteurs en scène se sont succédés. Certains sont restés pendant 7 spectacles. Glaïa Romanovskaya, Béla Ksupon est restée pendant 6 spectacles. Marion Cotarel a travaillé avec nous pendant 2 spectacles. Brigitte en est à son 3e. Et puis peut-être ça va continuer, nous allons voir. Donc c'est une association qui permet à des acteurs en situation de handicap, de tous âges, de tout handicap, de participer à 200 heures d'ateliers de création par an pour arriver jusqu'à la scène du Printemps des comédiens.
Oui. Alors, comme donc chaque année sont mises en commun les énergies et savoir-faire des professionnels du médico-social et du spectacle pour arriver jusqu'à la création donc d'un spectacle complet, comment toutes les deux avez-vous travaillé à l'année ?
Alors, avec l'autre théâtre, c'est un principe au long cours où on travaille, on rencontre le groupe en octobre. On se voit régulièrement une fois par semaine, plus un samedi par mois, avec ensuite en fin de parcours un temps de résidence. Et là, on crée le spectacle donc pour cette visibilité au Printemps des comédiens. C'est vraiment tout un parcours sur l'année.
Et oui. Alors Fafa, vous faites partie depuis le début des animateurs, auteuses. Quel est votre rôle ? Alors déjà, bon, en tant que présidente et en tant qu'anime-actrice.
Déjà au niveau associatif, il y a énormément de travail, de relations avec les parents ou les institutions des acteurs. Il y a pas mal de travail aussi en coordination avec la compagnie. Il y a aussi un énorme travail de recherche de financement parce qu'un projet comme ça, qui se veut être à la fin un spectacle professionnel, malgré que nous travaillons avec des acteurs amateurs, mais la compagnie avec qui nous travaillons est professionnelle et nous estimons que la rémunérer à sa hauteur, c'est important. Donc voilà, il y a tout ce boulot-là à faire.
Et oui, et oui. Donc, l'autre théâtre, alors on l'a dit, ça s'appuie sur des compagnies professionnelles du territoire. Vous en avez cité quelques-uns. Donc, essentiellement, des metteurs en scène, voilà, vous les avez cités. Et donc, voilà, pour la... je tape Brigitte Negro qui est à côté de moi.
Ouais, c'est moi.
Brigitte, donc, qui est à la mise en scène pour la troisième année. Mais vous êtes quand même essentiellement chorégraphe, Brigitte.
Oui, je suis chorégraphe et je porte ce projet en tant que chorégraphe. Je mets en scène de fait, hein, mais un chorégraphe met aussi en scène. Cette année, on est parti sur un texte de Nicolas Verken, de l'Acta Compagnie, qui est un metteur en scène dont j'apprécie beaucoup le travail. Et j'avais vu un texte qui s'appelle « On veut » au Festival d'Aurillac l'année dernière. Ce texte, il était porté par sa compagnie. Et écoute, ça m'a fait un... Ça a résonné très fort avec le travail que je mène avec l'autre théâtre. Et je me suis permis de demander à Nicolas Verken si ce texte pouvait être l'élan de la création cette année. Il est parti avec un grand oui, donc ça a été c'est pour nous vraiment le support de la création de cette année. C'est ce texte de Nicolas Verken qui s'appelle « On veut ».
D'accord. Et donc, il y aura plus de textes que vos créations précédentes.
Oui,
le corps s'exprime essentiellement sur les dernières années. C'était vraiment un travail du corps.
Oui, ouais, bien sûr. Après, le travail du corps, il est quand même central, hein, nous, dans le travail qu'on fait avec les acteurs et les actrices. Effectivement, moi, j'aime beaucoup hein, quand on prend la parole et qu'il y a du texte. Donc, il y en a sur chaque création. Cette année sera un petit peu plus présent parce que, de fait, on va entendre des extraits de ce texte. Et puis, ce texte va être porté et restitué de plusieurs façons au plateau. Donc, par des mots, par des pancartes, par des écritures sur les t-shirts. Enfin, on a vraiment travaillé avec le groupe. Comment on peut restituer ces textes au mieux aussi par rapport à ce qu'ils sont et ce qu'ils ont envie de porter aussi comme type de parole.
D'accord. Alors du coup, Brigitte Négro, vous voulez bien nous lire un petit extrait de...
Mais oui, je vais vous lire un petit extrait. Oui, donc c'est un extrait, hein, bien sûr. On veut être droit, droite. On veut être courageux, courageuse. On veut être beau, belle, drôle. On veut ne jamais être tout seul. On veut être nombreuse. On veut avoir chaud. Le soleil sous la peau. On veut être fidèle. On veut danser. On veut qu'on nous chante des chansons, qu'on nous fasse des câlins. On veut qu'on nous rassure. On veut que ça change. On veut que les richesses soient mieux partagées. On veut se sentir bien, pas avoir peur le matin. Jamais. On veut grandir plutôt que vieillir. On veut rester des enfants. On veut des pique-niques. On veut des batailles d'eau. On veut se dresser, rester droit, juste, bon. Ne jamais courber les chines, jamais mettre genoux à terre. On veut se reposer, être tranquille, un peu. Pas avoir besoin de se battre, pas avoir peur. On veut construire des cabanes, des abris pour nous et pour les autres. On veut dormir dehors, oui, mais pas toutes les nuits. On veut faire du feu, on veut jouer au foot. On veut te prendre par la main, discrètement. On veut entendre « je t'aime » et puis le dire, tout doucement, en te regardant dans les yeux. « Je t'aime ».
Brigitte Négro, merci. Donc un extrait de « Tout le monde se ressemble », à voir du 13 au 15 à la Bulle Bleue, interprété par la compagnie L'Autre Théâtre. Quelques mots sur vos choix de mise en scène, du coup, un peu plus... Est-ce que vous pouvez nous détailler un peu tout ça?
Alors cette année, mais ça c'est la façon qu'on a de... Enfin, que moi j'ai de travailler, il y a ce qu'on appelle l'écriture au plateau. C'est-à-dire que je pars vraiment de ce que les acteurs et actrices ont à me proposer par rapport à la thématique. Et ensuite, le spectacle se crée aussi en fonction de ce qui émerge. Donc on a travaillé de cette façon-là. Après, vraiment, ce qui est aussi assez central dans le travail, c'est qu'il y a cette rencontre entre les artistes professionnels et les acteurs de la Bulle Bleue. Donc on trouvera cette année deux Lorenzo Dallai qui sera au plateau.
Un fidèle.
Oui, c'est un fidèle. Et puis Julia Lorraine qui seront aussi au plateau avec eux. Donc il y a ce dispositif comme ça de rencontre avec des pratiques, des compétences et des savoir-faire différents. On travaille toujours sur la question du corps, comment le corps se mobilise sur les différentes consignes d'improvisation. Et ensuite, je commence à engager le travail d'écriture à partir de janvier, février, en fonction de ce qui s'est dessiné en fait, sur les différentes improvisations. Voilà.
Combien y aura-t-il d'interprètes sur scène cette année?
Ouh là là, ils sont pleins, 21.
Ils sont 19 acteurs en situation de handicap, plus Lorenzo et Julia, donc 21.
Ouf, gros plateau.
Oui, sacré challenge.
Alors, quelques mots sur la scénographie peut-être et sur la création musicale, la création sonore.
Oui, ce qui est très joli dans ce projet, c'est que ça me permet en fait chaque année de rencontrer aussi des artistes et des univers sonores différents. L'année dernière, on travaillait avec Jérôme Hoffman, Braquage Sonore. L'année d'avant, on a travaillé avec Marc Callas. Et cette année, j'ai invité Bertrand Wolf, qui fait partie du collectif Postcoitum. Ouais, alors donc Bertrand, je le connaissais pas beaucoup, c'était vraiment un pari. Et alors la création musicale cette année n'est pas au plateau, donc il sera pas sur le plateau, elle est en direct en régie. Et Bertrand, c'est vraiment une très belle rencontre pour ce projet. Il est très à l'écoute, on est vraiment sur des endroits de recherche communs, donc ça c'est un pari gagné.
D'accord. Et au niveau de la scénographie, quelques mots ?
Oui, alors la scénographie, je ne vais pas forcément dévoiler ce qui se passe parce qu'il y a un gros climax de scénographie. Donc voilà, j'aimerais bien que les spectateurs et les spectatrices le découvrent. Mais on a travaillé en scénographie sur cette question de revendication, manifestation politique, poétique. Voilà. Le plateau est vraiment habité par les comédiens. Et puis, il va y avoir, à un moment donné, un travail sur la question de la revendication. Voilà.
Yes. Alors, tout le monde se ressemble par l'autre théâtre, donc conception Brigitte Négro, à voir du 13 au 15 à 21h à la Bulle Bleue. Alors, la Bulle Bleue se situe, dans le quartier Montpellier-Village. C'est vraiment un très bel espace. L'adresse exacte, c'est 285 rue du Mas de Prunay. Voilà, et toutes les informations, réservations, donc sur le site du Printemps des Comédiens. Bonjour Jean Varela. Si on vous annonce ou c'est écrit complet, ne vous inquiétez pas. Ça vaut le coup de vraiment vous rendre sur place. Vous vous mettez sur liste d'attente. Le bar sera ouvert. Vous pourrez très bien faire un petit apéro en attendant.
Ah oui, le bar sera
ouvert. Vous serez très bien reçu.
Bar et restaurant.
Voilà, et c'est vraiment l'occasion de découvrir la Bulle Bleue. Deux mots, Brigitte Négro, sur votre actu, parce que vous avez une grosse actu en juin, avec votre fameux bal le 7 dans le cadre de Scopy Fun Fest.
Oui, c'est ça, c'est demain.
Voilà, et nous avons fait la nuit le 23 juin à Montpellier.
Oui, le 23 juin à Montpellier, ça c'est une création pour l'espace public qu'on a faite il y a 3 ans, et on la joue en partenariat avec l'association Odette Louise, Recto Verso, on joue à Celle-Neuve, dans le quartier Celle-Neuve.
Voilà, et Dialogue 2, le 24 au Moco.
Oui, ça c'est un travail qu'on mène avec le centre chorégraphique sur la petite enfance. Et donc il y a des temps comme ça de plateaux partagés, de dialogues avec des musiciens, des danseurs et différentes crèches.
Parfait.
Dans des lieux culturels différents chaque fois. Là c'est le Moco, d'un fois c'est le centre chorégraphique, après ce serait au musée Fabre.
Sacré travail tout ça. Hein.
Oui. Non,
vous êtes
dynamique.
Passionnée, oui. Pleine d'énergie. Fafa, on a présenté l'essentiel, vous êtes d'accord avec moi?
Oui, puis les gens qui viennent voir l'autre théâtre, ils connaissent déjà un petit peu l'histoire de notre association.
Oui. Et alors on termine avec un extrait musical, donc de votre... artiste...
Bertrand Wolf.
Voilà, oui. Je cherchais le nom Bertrand Wolf. Et ça s'intitule Pulse.
Pulse.
Et c'est sur Radio FM+. Et oui, vous êtes sur Radio FM+, dans votre émission Scénorama spéciale Printemps des Comédiens. Donc, venez nous voir le jeudi de 18h à 18h50. Nous sommes installés sous la Pinède, près de la librairie de Laurent. Et l'émission est écoutable, comme d'habitude, à vos horaires habituels et en podcast sur radiofmplus.org. Alors, Jérôme Marin, alias Monsieur K, merci d'avoir accepté mon invitation.
Je vous en prie.
Alors, avant de découvrir votre cabaret au bon goût d'autre chose, Le Secret, nous aimerions connaître votre parcours artistique. Voilà. Et savoir, par la même occasion, comment est né Monsieur K.
Ce sont des bonnes questions. La réponse va être longue, mais que dire ? Mon parcours, c'est un parcours de comédien de province, on va dire ça comme ça à l'époque, puisque j'ai fait le conservatoire de théâtre à Orléans, après et pendant un parcours de lycéen en option A3 théâtre, les anciennes formules des bacs L maintenant. J'ai eu un petit parcours dans la nuit après le conservatoire où j'ai fait drag queen dans les années 90 et...
À Paname ou toujours
à Orléans, toujours à Orléans. Et en même temps, j'ai commencé à faire du cabaret itinérant, de la revue itinérante, voilà. Mais là où c'était le point je crois, un peu important, c'est surtout au lycée ou pour le bac. On a eu la chance, je dis que c'est vraiment une chance pour moi, d'avoir eu comme auteur à travailler Karl Valentin, qui est un cabaretiste munichois du début du XXe siècle, qui travaillait sur l'absurde. On dit même que c'est un peu l'ancêtre de Ionesco sur ce travail, qui était assez proche de Brecht aussi, qui a un vrai, vrai, vrai travail de clown et de cabaretiste, avec à l'intérieur de ce fonctionnement une grande place pour l'improvisation, l'impromptu, le rapport au public. Et ça, je pense que ça m'a vraiment, et à la fois, pas formé, mais en tout cas donné une certaine idée de la forme de spectacle que j'avais dans la tête, en fait. Parce que j'aimais bien le théâtre, mais je trouvais que les formes un peu plus libres, où à un moment donné, il y avait un rapport un peu, plus frais avec le public, c'est des choses qui me plaisaient le plus. Et à un moment donné, dans ce parcours de nuit et dans ce parcours de musical itinérant, c'est-à-dire d'aller faire la fête à la saucisse, la foire aux poireaux, les choses comme ça, tout en allant à Paris au Banana Café ou au Queen, faire la drag queen, j'ai eu envie de faire du Karl Valentin, mais à titre d'essai, j'ai commencé à faire du Karl Valentin avec une amie à moi qui s'appelait Christophe Romet, qui s'appelle toujours Christophe Romet, puisqu'elle travaille avec moi aussi sur Le Secret à Paris. Et on a commencé à jouer dans les bars, c'est des petites formes de Karl Valentin mélangées avec des chansons de Boris Vian, de Bobby Lapointe, mais aussi d'autres choses qui étaient moins connues à l'époque, puisqu'on n'avait pas cet accès maximum à tout l'univers de la chanson française tel qu'on peut l'avoir maintenant. Mais voilà des découvertes de vieilles chansons qu'on a voulu reprendre, et puis des choses plus actuelles comme Rachel Desbois, Clarica, Les Ailes, enfin en tout cas des artistes de cette époque-là, puisque j'ai commencé à faire du Karl Valentin en 97, il me semble, 1997.
Et alors, est-ce que on peut dire que c'était les prémices de votre personnage, Monsieur K?
Alors, Monsieur K est arrivé dans un de ses spectacles qui s'appelait La fin du monde. Et c'était une scène, je sais pas comment dire, c'était une rêvasserie de ma part, un mélange entre mes fantasmes dû au film de Bob Fosse, et puis un mélange avec Charlie Chaplin, puisque Monsieur K jouait avec un ballon Map Monde. C'était assez dictatorial. Je crois qu'il l'a gardé, ce côté dictatorial, Monsieur K, mais voilà. Et je ne connaissais pas, c'était certainement une bêtise de ma part. J'ai découvert Courtval et les textes de Brecht, et là j'ai eu envie vraiment, du coup, de me mettre à chanter des chansons qui me touchaient vraiment, dans un personnage qui était et masculin et féminin. Et ça a été le même dispositif que pour les petites formes avec Karl Valentin. Et d'ailleurs, il est arrivé dans un de ses spectacles de Karl Valentin, donc de jouer dans les bars ses chansons de Courtval, de l'opéra de Katsu, de Happy End, de Mahagoni, les chansons françaises de la période de Courtval aussi. Et il s'est créé quelque chose d'un peu... Je peux pas dire que c'est un rêve, parce que, en tout cas, pour moi, ça a été l'école que je rêvais. L'école que je rêvais pour apprendre les choses. Très rapidement, j'ai compris qu'il fallait maîtriser le rapport au public, qu'il fallait tenir d'une main de maître les choses, qu'il fallait imposer aussi une silhouette, même si à cette époque-là, c'était, je trouve, beaucoup moins compliqué de porter des talons aiguilles pour un garçon
que maintenant,
tout à fait. Voilà. Mais il fallait quand même imposer cette silhouette que j'avais définie comme un espèce de garçon boucher qui porterait des talons, et à la fois une vieille star des cabarets qui aurait chuté de manière malencontreuse et qui essaierait de survivre dans les bars. Et c'est ce que je faisais, de bar en bar, et au fur et à mesure, il y a eu de plus en plus de monde. Et à un moment donné, Monsieur K m'a offert la possibilité d'écrire mes premières chansons. Et puis après, il y a eu plein de choses qui se sont passées, et des rencontres merveilleuses, notamment à Marseille, aux universités d'été euro-méditerranéennes des homosexualités, où Tom de Pékin, qui est un artiste plasticien, qui donc m'a soutenu sur cette proposition, m'a permis de me faire confiance en proposant des choses et dans les l'installant dans quelque chose de plus politique en termes de propos sur le genre, et m'a permis de faire des merveilleuses rencontres, donc Corinne, Madame H, Corinne qui est avec nous sur le cabaret Le Secret. Donc voilà, et très rapidement, j'ai commencé à faire des soirées à Paris, très très rapidement. Et puis au fur et à mesure, les rencontres, là je parle pas d'Olivier Py, mais Olivier Py était directeur du CDN d'Orléans aussi. J'ai eu des merveilleuses discussions avec lui sur le cabaret. Il m'a offert la possibilité aussi de jouer du coup dans la programmation du CDN pour l'anniversaire du CDN, et il m'a offert des chansons, enfin en tout cas m'a permis de partager des chansons avec lui. Donc tout ça, c'est des petites choses qu'on construit un peu l'univers de Monsieur K. Monsieur K, c'est particulier hein, pour moi, parce que je sais qu'il faut que je théorise un petit peu sur le geste de la créature de cabaret, mais lui m'a permis de me protéger beaucoup à un moment donné où je me posais des questions sur moi-même, sur mon travail, sur la manière dont je vivais, puisque... Je vais pas pleurer, mais c'est vrai qu'à cette période-là où on faisait du Karl Valentin et je commençais Monsieur K, je mangeais pas tous les jours. Et que jouer pour nous, c'était un plaisir, mais aussi un moyen de survivre, parce que la recette du chapeau nous permettait d'acheter des pâtes avec mes camarades. Donc tout ça, ça a nourri la bestiole. Et puis j'ai eu la chance vraiment à Orléans d'avoir la bienveillance de plein de gens qui m'ont soutenu. J'ai pu organiser vraiment plein d'événements complètement dingues. Je pense à la salle de musique amplifiée d'Orléans qui s'appelle l'Astrolabe, que j'ai pu transformer je ne sais pas combien de fois en cabaret, en y amenant des créatures que j'avais rencontrées, performeuses absolument dingues, et les gens pensaient venir à un cabaret avec des plumes. L'image d'Épinal qu'on a du cabaret, et en tout cas qu'on avait à cette époque-là, parce que je pense que l'image, justement, grâce à toutes ces créatures avec qui je partage maintenant plein de choses, on a changé un peu l'image du cabaret. Mais en tout cas, à cette époque-là, on avait quand même une image très conventionnelle, très d'Épinal du cabaret. Et donc, du coup, c'était assez agréable de dire aux gens, venez voir, on va faire un cabaret. En fait, c'était des créatures de rêve et des créatures monstrueuses qui étaient sur le plateau. Et c'était du bordel et ça se répandait. On était totalement libre de ton. On pouvait dire ce qu'on voulait sur scène, faire ce qu'on voulait. Utiliser nos corps comme on avait envie de le faire. Parce que, généralement, on jouait dans des caves à Paris. Mais à Orléans, j'ai pu avoir la chance de les mettre sur des scènes. Et à un moment donné, l'Astrolabe, la salle de musique amplifiée, m'a dit « Bon, Jérôme, c'est bien, mais maintenant, il va falloir passer à la vitesse supérieure. » Et je suis allé à la scène nationale d'Orléans, qui m'a proposé de faire un focus. Et là, je pense qu'il y a eu plein de choses qui se sont passées. J'ai rencontré François Chéniaud, avec qui on a fait un spectacle musical.
François Chéniaud, on adore. Les Montpellierains le connaissent bien pour l'avoir vu dans différentes formes sur Montpellier Danse. Après, et il sera là ce soir. Enfin, il sera présent là pour Le Secret.
Ah non, il n'est pas là ce soir.
Oh, j'étais contente déjà.
Maintenant, vous lui écrirez, vous lui envoyez un petit message. Mais il sera là bientôt. Il sera bientôt avec nous.
Du coup, on va avancer un petit peu parce que le temps passe.
Je parle. Vous ne me coupez pas, ma chère. Vous ne me coupez pas. Alors moi, je parle.
Venons-en à votre aventure de cabaret parisien, donc qui a pris forme en 2019. Un rendez-vous mensuel au truc du Père Lachaise. Oui. Et donc toujours entouré de vos fidèles complices, mais aussi de jeunes artistes en tout genre.
Oui.
Alors, est-ce qu'il y a le concept du secret, quel est-il ?
Alors, je précise juste que j'ai quitté Madame Arthur en 2018, et du coup, j'avais envie de proposer une forme qui me permettait, moi, de m'exprimer un peu plus et d'ouvrir notamment aux artistes féminines. Est-ce qu'il y a beaucoup d'artistes féminines au secret ? L'idée, pour moi, c'est d'expérimenter des choses. En fait, on fait cabaret, les gens peuvent manger, boire, comme dans tous les cabarets. Et on expérimente des choses, voilà. Et il s'est avéré que dans mes rencontres, en dehors du cabaret, j'ai plein d'artistes qui m'ont dit « Ah, tu sais, moi, je fais de l'effeuillage, mais j'aimerais bien... » Je pense à une artiste là, notamment, je vous donne un exemple, mais Sucre d'Orge, qui est une artiste assez fameuse en effeuillage et en burlesque, me dit « Ah, tu sais, Jérôme, j'aimerais bien faire des chansons érotiques au luth parce que je suis en train de faire du luth, mais j'ai du mal parce qu'on... » Je dis « Viens au secret faire des chansons érotiques au luth. » Et ça a été comme ça, à plein d'endroits, des artistes qui avaient envie de déplacer leur travail habituel, et il y a le cabaret, et comme en fait on s'en fiche, puisque pour moi l'idée c'est pas de réussir le numéro, l'idée c'est de le faire et de le partager, d'expérimenter. J'ai toujours considéré que Le Secret était un lieu d'expérience, et donc on se retrouve maintenant au bout de 5 saisons avec 50 artistes au Secret, ce qui est beaucoup.
C'est beaucoup et c'est beau. Alors pour ce Printemps des Comédiens, vous êtes installé sur le plateau de l'Amphido, donc en plein air.
Oui.
C'est une première en plein air ?
Non, ce n'est pas une première en plein air.
D'accord. Alors, comment avez-vous pris possession de cet espace au-delà donc, d'une mise en scène, c'est aussi une mise en public, si j'ai bien compris.
C'est surtout une mise en public, avant d'être une mise en scène. Non, moi, ce qui m'intéresse dans l'idée de partir, de tourner, d'aller ailleurs que notre endroit habituel, c'est de se dire, alors, il y a un espace qui a ses particularités, ses contraintes, et moi, ce que j'aime, c'est de dire, on transforme l'espace en cabaret, et surtout, on permet aux gens qui ont l'habitude d'aller dans leur lieu, de le voir sous un nouveau jour et de se dire « Ah, mais j'aurais jamais imaginé que c'était possible. »
Alors, qu'allons-nous donc voir et entendre ces prochaines soirées pour Le Secret ?
Il y a beaucoup de chansons parce qu'on aime la chanson et pas que la chanson française. Ça va être un joyeux bordel. Je sais pas quoi dire de plus.
Parce on l'imagine que on, à votre on sauce, est... quoi.
c'est un joyeux bordel, oui.
Alors j'ai noté quelques noms des artistes, des créatures qui seront oui. sur scène. Sarah Bernick.
Ah non.
Elle sera pas là.
Vous n'avez pas les bons noms.
Ah bah non.
Chère. Vous n'avez pas les
Ou
bons
Bouche
noms.
Bouche du Rhône
est là.
Ah, Sucre d'Orge, je vous l'avais cité.
Non, elle n'est pas là.
Elle ne sera pas là. Tante Françoise.
Non, elle n'est pas là.
Ah, oh, Françoise Chéniaud, vous m'avez dit non. Oui, dites-nous quelques noms.
Je vais vous donner
oui.
les noms.
Oui, dites-nous.
Alors, il y a Corinne, il y a Patachetouille, il y a la Big Bertha, il y a Bouche du Rhône, il y a Jeanne Plante, il y a Roby, il y a Lala Morte, il y a Satomi. Il y a Mr. James, il y a l'Oiseau Joli, il y a Tony Blanquette, il y a la Baronne du Bronx, il y a Victoria, il y a Fantin, il y a Paquita Maria Sanchez, il y a Monsieur Camp. Voilà. Et j'espère que je n'ai oublié personne. Mais on wow. est 16 sur scène, je crois, il me semble, c'est
ah,
ça.
Ah oui. Alors, chaque soirée s'annonce unique. Le public, vous l'avez dit, fait partie du spectacle.
Il est même sur scène avec nous.
Ah, génial. Donc, on va pouvoir boire, manger, danser sur scène.
On boit, on mange, on fait ce qu'on veut.
Génial. Alors oui, il y a un conseil qu'on va donner auditeurs, auditrices et public. Laissez les portables à la maison. Ou alors,
Ça, je vais leur répéter. Hein, ça, c'est oui, affreux. Oui, profitez de l'instant présent. Ne faites pas de vidéos, ça ne sert à rien. Voilà. Et puis Instagram et Facebook, on pourra faire son post après le spectacle. On a le temps.
Absolument. Eh bien, écoutez, nous avons hâte de découvrir Le Secret cabaret au bon goût d'autre chose. Donc, c'est à voir ce vendredi et samedi à 22h à l'Amphido. Toujours pareil pour les informations et les réservations, c'est sur le site du printempsdescomédiens.com. On va écouter...
si je peux me permettre, ma chère, juste de préciser une toute petite chose. On peut manger sur place et on peut boire si on arrive un petit peu plus tôt. On peut s'installer et le faire. Je pense que c'est bien.
Dès 21h, oui, vous avez raison. Merci de l'avoir rappelé.
Je vous en prie, merci à vous.
Merci, Jérôme. Allez, on écoute un petit morceau du cabaret du secret sur Radio FM+.
Yes. Alors...
Le cabaret, le secret cabaret au bon goût d'autre chose. Donc ce vendredi 7 et samedi 8 à l'Amphido à 22h, une conception de Jérôme Marin que vous venez d'entendre sur Radio FM+. Alors on continue cette troisième partie d'émission avec une interview de Katia Ferreira, une interview que j'ai faite en amont parce qu'elle n'était pas disponible pour venir ici au Domaine d'eau ce jour. Et donc, elle nous présente sa pièce en écoute sur Radio FM+. Katia Ferreira, bonjour. Le public a pu apprécier vos talents de comédienne dans la création de Cyril Test sur l'autre rive, à l'Amphido, en ouverture du Festival des Printemps des Comédiens. Et nous pouvons à présent découvrir votre talent de metteuse en scène avec votre création pour les élèves de la sortie de promo de l'ENSAD. Création intitulée « Tristesse animale noire », à voir encore ce samedi 8, jeudi 13 et samedi 15. Alors, dites-moi, Katia Ferreira, voilà un sacré challenge.
Oui, j'étais très heureuse de cette invitation que m'a faite Gildas Milin de venir participer à la création d'un des trois spectacles de sortie de la promotion 2024 de l'ENSAD. Je suis moi-même sortie de cette école il y a 10 ans, donc c'était assez émouvant pour moi de revenir et de travailler avec eux. C'est des élèves que j'avais rencontrés à l'occasion de leur concours, alors je faisais partie de leur jury d'entrée. Donc ça aussi, c'était une très belle expérience de les suivre pendant toute leur scolarité, pendant les 3 années. Et une expérience nouvelle pour moi qui ai l'habitude de travailler avec mes camarades depuis 10 ans maintenant et de travailler avec des comédiens et des comédiennes que je ne connaissais pas, c'était vraiment une expérience très enrichissante.
Et oui, alors bon, vous n'en êtes pas à votre première mise en scène. Si on remonte, alors votre première mise en scène, il me semble, c'était juste à votre sortie de promo, non ?
Oui, c'était justement ma carte blanche d'étudiante à l'ENSAD qui s'appelait Foi, Amour, Espérance et qui avait été programmée au Printemps des Comédiens 2014, il y a tout juste 10 ans. C'était l'année des grèves des intermittents, donc le spectacle n'avait pas joué, mais après il avait fait une petite tournée en Occitanie. Et ça, c'était ma première création, justement, quand je sortais de l'école, oui.
Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous frotter à un tel exercice ? Parce que c'est quand même rien à voir entre être sur scène en tant que comédienne et être à la mise en scène. Et d'ailleurs, pardon, excusez-moi, quelles sont les grosses différences ?
Moi, j'ai vraiment l'impression que ce sont deux approches différentes, mais du même métier, et que finalement, c'est assez complémentaire. J'aime bien faire les deux, et j'aime bien l'idée de pouvoir être enrichie dans mon travail de mise en scène par l'approche de mise en scène, oui, par mon approche du plateau en tant que comédienne et vice versa. Donc c'est vrai que j'imagine pas ça comme vraiment deux métiers différents, mais plus comme des places différentes dans mon approche théâtrale.
D'accord. Et alors le métier de metteuse en scène fait partie de la formation à l'ENSAD ?
Pas à proprement parler, il n'y a pas de section mise en scène à l'ENSAD, il y a une section jeu, mais il y a cette opportunité de faire une carte blanche pendant la scolarité. Maintenant, depuis que Gildas est arrivée, je crois que ça a lieu en début de troisième année. Là, les étudiants de la promotion 2024, ils ont présenté leurs deux projets en octobre, et donc c'est l'opportunité de s'essayer à la mise en scène, et c'est super.
D'accord. Et alors, du coup, vous, très vite, vous avez eu envie de faire de la mise en scène. Vous allez continuer à faire de la mise en scène ou vous allez arrêter le théâtre ou, enfin, ça va vraiment pour vous, c'est suivant vous les propositions, en fait, comment ça se passe pour vous?
C'est vraiment en même temps, quoi. Là, je suis sur le spectacle de Cyril pour la saison prochaine, mais je vais commencer une création que je devrais présenter a priori au Printemps des Comédiens de l'année prochaine. Et non, j'ai vraiment envie de continuer à faire les deux et justement de ne pas choisir.
Très bien. Alors, donc, vous avez dit, c'est Gildas Milin, le directeur, qui vous a fait la proposition. Est-ce que pour ce genre d'exercice, vous met-il des contraintes, des cadres ? Vous avez totale liberté.
Des contraintes, on en a toujours dans ce métier, et il en faut d'ailleurs. La contrainte principale de cette invitation, c'est ces intégrales que font les étudiants et les étudiantes en fin de semaine, donc les samedis. Puis ils enchaînent les 3 spectacles, donc c'est plus de 10 heures de spectacle. Et donc ça demande de penser les spectacles pour qu'ils puissent se monter et se démonter rapidement, et de faire avec un espace commun, en tout cas de prendre des décisions communes sur, par exemple, là, cette année, sur cette édition de la frontalité des trois spectacles, de faire un dispositif frontal. Après, Gildas nous laisse totalement libre sur le choix des textes et sur la façon dont on va travailler avec les élèves. Il a vraiment cette générosité d'inviter les metteurs en scène à venir travailler comme ils le font habituellement.
D'accord. Alors, vous parlez de l'autrice. Est-ce que vous voulez bien nous la présenter en quelques mots? Et puis, pourquoi cette autrice et pourquoi ce texte?
Alors, Anja Ehling, c'est une autrice allemande qui a quelques années plus que moi, mais qui n'est pas très âgée et qui est vraiment passionnante. Elle a beaucoup écrit à partir de faits divers. En tout cas, ses premières pièces travaillaient souvent autour de faits divers, soit réels, soit fictifs. Et elle a beaucoup écrit sur la catastrophe, sur comment on peut se reconstruire après avoir traversé une tragédie ou une catastrophe dans sa vie. Donc là, en l'occurrence, Tristesse animal noir, c'est une pièce qui date de 2007, qu'elle a écrit après les incendies qui ont ravagé la Grèce cet été-là, et à partir d'un fait divers qui était celui d'un groupe d'amis qui est allé dormir et pique-niquer dans la forêt, faire un barbecue dans la forêt, et qui a mis le feu à la forêt. Elle n'a pas voulu suivre le procès qui a suivi ce fait divers, puisque ces personnes ont été devant la justice pour avoir mis le feu à la forêt. Mais par contre, elle a imaginé quelle pouvait être leur vie après. Enfin, elle a fictionnalisé, hein, évidemment, ce fait divers, mais elle a imaginé quelle pouvait être leur vie après la catastrophe. Et finalement, elle réfléchit, elle pose la question de la punition extrajudiciaire, c'est-à-dire de comment se reconstruire avec le sentiment de culpabilité, ou après avoir vécu ça, elle pose la question de comment on se reconstruit lorsqu'une partie de nous-mêmes a été réduite en cendres et laissée justement dans cette forêt brûlée.
D'accord. Et alors, comment avez-vous travaillé? Est-ce que vous avez fait un travail en... Alors, c'est vous qui avez choisi le texte, oui. Est-ce qu'il y a aussi une réflexion collective?
Non, il y a eu une réflexion collective. Bien sûr, c'est moi qui ai choisi le texte, mais j'étais arrivée avec l'envie de travailler avec eux sur Twin Peaks de David Lynch. Donc, vous voyez, le point de départ était apparemment très éloigné, mais parce que David Lynch, lui aussi, a travaillé à partir d'un fait divers, d'une jeune fille qui a été retrouvée morte dans un cours d'eau, et de réfléchir à l'onde de choc que ça produit dans une communauté. Donc ça, c'était le point de départ de la réflexion. Puis en travaillant avec eux sur Twin Peaks, je me suis rendu compte assez rapidement que cette promotion, ils avaient un désir de texte, vraiment de texte, de porter une langue théâtrale et pas de travailler sur une écriture de plateau. Parce qu'évidemment, quand on travaille avec 14 jeunes comédiens, et moi je ne suis pas autrice, donc j'ai eu la tentation de leur proposer une écriture de plateau.
Oui, mais auteur, c'est encore aussi un autre métier, on va dire, non?
Voilà, c'est ça. C'est un autre métier, c'est pas le mien en tout cas.
Qu'on n'apprend pas forcément non plus à l'ENSAD.
Non, mais il y a des auteurs brillants qui sont sortis de l'ENSAD et oui. Des autrices brillantes.
Charlie Breton, par exemple, entre autres.
Pour n'en citer qu'un, absolument. Et donc, j'ai commencé à chercher des textes qui pouvaient quand même répondre à cette question de départ. Et puis j'ai pensé à Anja Ehling, que certains élèves connaissaient, d'autres non. Et ça me tenait à cœur aussi de leur proposer une écriture féminine, parce qu'ils en avaient peu traversé pendant leurs 3 années d'école, et que moi, c'est des questions qui sont importantes pour moi aussi. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a décidé de travailler sur Tristesse animal noir.
D'accord. Donc, comment mettre en scène un texte qui n'est pas un texte dramatique? C'est un roman, en fait. C'est une pièce de théâtre?
C'est une pièce de théâtre, mais qui a effectivement, vous avez raison, des allures de roman, parce qu'elle est construite en 3 parties. Il y a une première partie qui pourrait sembler comme ça à première vue assez naturaliste, en tout cas très, très théâtrale et dans un jeu assez direct comme ça de situation. Donc ça, c'est l'avant-catastrophe. La partie s'appelle La Fête, et c'est vraiment le départ en forêt de ce groupe d'amis qui sont plutôt des citadins un peu bobos et qui veulent aller se ressourcer et aller passer une nuit dans la nature. Puis la deuxième partie, qui s'appelle Le Feu, elle est beaucoup plus étrange, et effectivement, vous avez la raison de le dire, un peu romanesque, parce qu'elle est construite comme une sorte de cœur antique. Et pour raconter la catastrophe, parce que c'est pas possible de représenter sur un plateau de théâtre un incendie, et En fait, elle pose la question de l'irreprésentable dans cette deuxième partie. Et donc la partie du feu, plutôt que d'être jouée en direct, elle est prise en charge par une sorte de chœur, comme dans la tragédie antique, et qui raconte la traversée de ce feu par ce groupe de personnages à la troisième personne. C'est plus de situationnel, si on veut dire. Et après, la troisième partie, qui s'appelle La ville, c'est vraiment la question de comment on se reconstruit après la catastrophe. Donc c'est vrai qu'elle tricote plusieurs théâtralités très différentes, tantôt naturalistes, tantôt narratives, tantôt presque une sorte d'oratorio. Et c'est vrai que c'est un défi de mise en scène de travailler avec ces ruptures stylistiques aussi en termes d'écriture.
Ah oui, oui, oui. Et du coup, combien y a-t-il de personnages vu que vos comédiens et comédiennes sont 14 sur scène ?
Il y a 6 personnages dans la pièce. Il y a un personnage qu'on appelle entre nous Anya, parce qu'on a l'impression que c'est comme la voix de l'autrice, mais qui est une sorte de voix off de cinéma, on pourrait dire, de narratrice en chef, quoi, de la narration, qui raconte l'histoire. Et après, à partir de cette deuxième partie, il y a un groupe de narrateurs, mais que nous, on a traité comme des sortes d'esprits de la forêt qui viennent retraverser cette histoire et nous la raconter, un peu comme des messagers dans la tragédie qui viennent nous raconter, la mort d'Antigone, qui viennent nous raconter après la catastrophe ce qui s'est passé. Voilà, puis dans la troisième partie, ceux qui sont dans la deuxième partie prennent en charge d'autres figures qui traversent aussi la narration.
D'accord. Alors, la vidéo est un outil qui fait partie, on va dire, intégrante de votre formation théâtre. Il y en a sur scène, vous utilisez aussi l'outil vidéo ?
Oui, oui, moi c'est un outil que j'aime beaucoup, avec lequel j'ai appris à travailler à l'école avec Cyril Test, puisqu'on avait travaillé avec lui sur la création de Nobody, et depuis c'est un outil que j'aime beaucoup, et qui là se prête particulièrement à l'écriture d'Anya Ehling, puisqu'elle fait une sorte de feuilleté comme ça, de narration et de temporalité, elle navigue entre le présent de la narration, le présent de la situation. Et donc la vidéo, elle nous permet de prendre en charge toutes ces dimensions finalement narratives. Donc là, la grande performance, je dois le nommer, des comédiens et des comédiennes du spectacle, c'est qu'ils se cadrent eux-mêmes, ils se filment eux-mêmes. Il n'y a pas de cadreur. On a travaillé avec Christophe Gauthier qui est venu les aider à chorégraphier les partitions vidéo, mais c'est eux qui prennent en charge le cadre pendant le spectacle, et ça c'est vraiment quelque chose de difficile, et ils le font très très bien.
Alors est-ce qu'il y a une, ça va être ma dernière question je pense, ou avant-dernière, est-ce qu'il y a une grosse différence entre la promo dans laquelle vous y étiez il y a 10 ans et celle de 2024 que vous avez découvert, enfin je veux dire grosse différence de niveau ou de pensée, de travail?
Oui, il y a plein de différences, c'est sûr. Puis l'école change et c'est bien normal avec le temps et avec Gildas qui est arrivé et qui a imprimé aussi son identité à cette école. Donc oui, il y a plein de différences, mais je retrouve aussi beaucoup de points communs et c'est surtout la rigueur et la vivacité dans le travail qui demeure, je trouve vraiment la philosophie de cette école. Voilà, non, sinon, évidemment, pour moi, il y a presque déjà un saut générationnel et ils ont une approche qui est différente. Et c'est très intéressant aussi pour moi de rencontrer des gens plus jeunes qui ont une toute autre approche du plateau.
Écoutez, Katia Ferreira, un grand merci.
Et oui, vous êtes toujours sur Radio FM Plus dans votre émission Scénorama. Nous sommes en direct du Domaine d'eau près de la librairie. Donc retrouvez-nous les jeudis de 18h à 18h50. Et dans 15 jours, ce sera le mercredi exceptionnellement, mais le même horaire. Et sinon, vous pouvez nous écouter en podcast, évidemment. Alors je vous propose d'écouter un extrait de la pièce de Katia. Ça se situe au début de spectacle, où il y a une description narrative de la forêt. Puis cette première scène que vous allez entendre, qui a lieu dans le minibus sur le trajet qui les mène à la forêt.
Je veux montrer à Gloria son premier chevreuil. On pourrait dire qu'ils sont amis. Ils se connaissent, plus ou moins. S'aiment bien, d'une certaine manière. Se méprisent parfois. Savent pas mal de choses les uns des autres. Veulent se plaire. En ce beau jour d'été, ils ont voulu, pour une fois, sortir de la ville, tourner le dos au monde, une grille partie, une nuit au grand air, oublier les soucis, compter les étoiles, vent sur la peau, moustiques, sourire, éclat dans les yeux, se rassasier, s'enivrer, se sentir léger, très léger, au milieu d'une clairière, entre des arbres hauts et verts qui les entourent de craquements et de bruissements doux et beaux, comme la première rumeur du monde. Les voilà.
Tristesse Animal Noir de Katia Ferreira avec la sortie de promo de l'ENSAD. Donc, c'est à voir au Hangar Théâtre Rue Nozeran dans le quartier Boutonnet Beaux-Arts. C'est ce samedi 8, jeudi 13 et samedi 15. C'est à 15h les samedis. Le jeudi, vérifié, je ne me souviens plus. Le spectacle dure 2h45 environ. Voilà. Et donc, eh bien, écoutez, cette première émission spéciale Printemps des Comédiens se termine. Un grand, grand merci à toute l'équipe du Printemps des Comédiens pour leur accueil toujours exceptionnel. Merci à Stéphane, William, Yann, Alix. Et merci à vous, chers auditeurs, auditrices, pour votre écoute. Et à la semaine prochaine. Bye bye.
You had a-